pour moi, ces événements sont des événements qui ne sont pas surprenants. Ce qui est surprenant, c'est la vitesse de la propagation. En réalité, c'est un bon indicateur de ce qu'est notre monde aujourd'hui, qui est un monde où les injustices n'ont jamais été aussi grandes. C'est-à-dire qu'en comparaison aux années 60 et 70, l'écart de richesse entre les pays pauvres et les pays riches s'est encore accru, alors qu'on aurait pu croire que ça allait en s'amenuisant, c'est encore accru. Au tournant des années 80, les grands pays industrialisés ont imposé, par l'intermédiaire du Fonds monétaire international, des règles qui consistent, pour obtenir un prêt du Fonds monétaire international, de mettre en place un ensemble d'opérations. Alors ces opérations sont les mêmes partout, que ce soit en Afrique, au Maghreb, au Moyen-Orient, ce sont exactement les mêmes règles. Ce sont privatisation du service public. Or, le service public dans les pays du tiers-monde était un espace dans lequel ça donnait du travail à un minimum de personnes. C'est secondo la suppression de toutes les taxes à l'importation ou à l'exportation, c'est-à-dire que c'était l'ouverture des frontières pour les produits des grands pays industrialisés qui venaient ruiner l'artisanat et les productions locales. C'était l'interdiction pour les États de financer les produits de première nécessité. C'est-à-dire que, par exemple, l'huile, le pain, dans des pays comme l'Égypte, l'Algérie, la Tunisie, n'étaient pas vendus au prix qu'ils avaient sur le marché mondial, mais le gouvernement payait une partie du prix pour que les gens puissent accéder à leur achat. Ces politiques du Fonds monétaire international sont venues donc détruire toutes les politiques distributives, redistributives qu'il y avait dans les pays du Sud, et ça a plongé, autant ici la crise a créé la pauvreté, autant dans les pays du Sud ça a créé la misère. Et ce qui se passe dans les différents pays, eh bien ça n'est que l'expression de cette misère qui s'est accumulée pendant 20 ans et qui là explose. De surcroît, à cette misère s'est rajoutée autre chose. Pour éviter que cette misère débouche sur des explosions, on a mis en place des dictateurs qui sont soutenus par les grands pays industrialisés et qui empêchent la misère de déboucher sur des explosions. Donc, pour comprendre ce qui se passe aujourd'hui, il faut avoir en tête ces deux facteurs. Ce sont ni simplement des émeutes de la faim, mais c'est des émeutes de la faim aussi. Ce n'est pas simplement un combat pour la démocratie, mais c'est aussi un combat pour la démocratie. Ce qu'il y a de nouveau, c'est l'articulation des revendications économiques et des revendications politiques. Et c'est pour cela que ce sont des révolutions, et c'est pour cela que, d'ailleurs, que les dictateurs ont peur aujourd'hui. Dans tous ces pays-là, les dictateurs ont extrêmement peur, et c'est pour cela aussi que les grandes puissances ne lâchent pas les dictateurs, sauf quand ils sont contraints. On l'a bien vu avec la Tunisie, jusqu'à la veille, Ali Omari proposait de former les policiers tunisiens à la répression. Donc on voit bien que quand ils lâchent un de ces dictateurs, c'est parce qu'ils ne peuvent plus faire autrement. Mais là, il y a vraiment quelque chose en termes d'espoir énorme, qui est que cet exemple tunisien montre qu'il est quand même possible de changer les choses. Et ça, c'est une leçon pour le monde entier.
Sur la suite du mouvement, notamment en Tunisie, comment vous voyez les choses ?
On est passé d'une phase de révolte qui a conduit au départ d'un dictateur, mais pas de la dictature. Ça a provoqué une poursuite de la mobilisation populaire pour exiger que tous les hommes du gouvernement qui étaient en lien avec l'ancienne dictature partent. Et ça, il a fallu de nouveau plusieurs jours de mobilisation avec des affrontements à chaque fois pour que enfin un nouveau gouvernement émerge. Aujourd'hui, le nouveau gouvernement a été annoncé et il garde comme Premier ministre quelqu'un qui a participé à toute la répression. D'où le fait qu'une partie des Tunisiens continue à contester et continue à exiger son départ. Ce qu'il y a d'extrêmement intéressant, c'est qu'après la phase de révolte spontanée, on a des associations, des partis politiques qui étaient clandestins, parce qu'ils étaient interdits par le régime, qui se sont regroupés pour avoir une plateforme dans laquelle il y a des revendications économiques et des revendications politiques. Je pense que ça montre bien la maturité de ce mouvement. Tout l'enjeu maintenant, c'est qu'est-ce qui va se mettre en place ? Est-ce qu'on va se contenter d'un ravalement de façade ? Ou est-ce qu'il va y avoir une véritable transformation ? Il est trop tôt pour dire si la révolution tunisienne va s'arrêter là ou si elle ira plus loin. Moi, j'espère qu'elle ira plus loin. Ça va se jouer en particulier dans l'ordre des élections, puisque le gouvernement actuel propose de commencer par des présidentielles et après par des législatives, alors que tout le mouvement populaire demande exactement l'inverse, c'est-à-dire demande des législatives de telle sorte que les élus soient réunis en constituante pour élaborer une nouvelle constitution dans laquelle un certain nombre de droits économiques seront posés. Et donc, commencer par les présidentielles, c'est se donner les moyens d'avorter la révolution. Commencer par les législatives, se donner les moyens que les députés élus par le peuple puissent vraiment les doter d'une constitution qui corresponde à leurs revendications.
Suite. suite de notre entretien avec le sociologue et militant associatif et politique Saïd Bouamama à propos du soutien au peuple du Maghreb qui s'organise dans la région Nord-Pas-de-Calais.
Alors le soutien s'est organisé très vite à Lille parce que la réaction spontanée, vraiment de toute l'immigration, toute origine confondue, a été de voir dans ce qui se passait en Tunisie un espoir pour l'ensemble des pays d'origine. Et deuxièmement, la France était complètement mouillée dans le soutien à Ben Ali, et donc l'idée que la mobilisation ici était un coup de main concret, donc la dénonciation ici, un coup de main concret à ce qui se passait en Tunisie. Aujourd'hui, ça n'est plus en Tunisie, le gouvernement français a été obligé de prendre des distances, mais par rapport à l'Égypte, par exemple, le gouvernement français est un des principaux soutiens à l'Égypte, donc ça se joue d'exactement de la même façon. Et donc, très vite, un collectif s'est organisé qui regroupe des Algériens, des Marocains, enfin des Algériens, des personnes d'origine algérienne, marocaine et tunisienne, parce que pour la plupart d'entre eux, elles sont françaises, et des personnes qui ne sont pas issues de l'immigration mais qui se sentent concernées parce qu'ils refusent ce monde inégalitaire, donc des gens qui ne sont pas issus de l'immigration mais qui se sentent concernés, se sont regroupés. On a déjà organisé deux rassemblements et une manifestation pour rendre public qu'ici, une partie de la population est en désaccord avec la politique internationale de Sarkozy, et les actions continuent. Après, il y avait cette idée aussi qu'il fallait aider les citoyens à comprendre ce qui se passait là-bas, parce que tout le monde n'avait pas les informations, etc. On fait venir un certain nombre de représentants des partis politiques d'opposition non reconnus par les régimes en Algérie, en Tunisie et au Maroc, et en Égypte, pour qu'ils donnent leur explication de la situation et que chacun puisse se faire son propre point de vue en écoutant les voix qui ne passent pas dans nos médias.
Dernier mot avec Saïd Bouamama, justement à propos de la situation au Maroc, où aucune émeute n'a éclaté.
Le Maroc, c'est une exception parce que le mouvement ne prend pas les mêmes formes, mais c'est un mouvement qui existe depuis de nombreuses années. Il y a en apparence des libertés démocratiques plus grandes, mais en réalité l'oppression économique est exactement la même. Alors il faut savoir par exemple au Maroc, depuis maintenant 5 ans, il y a un mouvement social qui s'appelle les enchômagés, qui regroupe tous les diplômés qui sont au chômage, qui toutes les semaines se réunit par milliers de personnes pour dénoncer leur situation de vie, etc. Donc la forme, ce qui bouge, c'est la forme. Ça prend pas la forme d'insurrection violente parce qu'ils peuvent manifester pacifiquement, mais la colère reste la même, et rien ne dit que si les choses ne bougent pas et si ça prend ailleurs qu'au Maroc, ça prenne pas cette forme-là également.
Saïd Bouamama, sociologue, militant associatif et politique, interrogé le 28 janvier dernier au sujet de la situation politique et sociale en Tunisie. On va passer à un autre point de vue local sur cette question internationale, celui d'Hélène Flautre. Hélène Flautre était présidente de la sous-commission des droits de l'homme du Parlement européen. Elle a apporté son soutien durant de nombreuses années aux opposants à la dictature Ben Ali en Tunisie. Entretien avec Hélène Flautre, députée européenne Europe Écologie et Les Verts dans la circonscription Nord-Ouest, c'était juste avant son retour de Tunisie fin janvier dernier. Elle nous décrit l'ambiance qui règne dans un pays en pleine révolution.
Bon, on voit évidemment tout de suite la différence, même si moi j'ai atterri au moment du couvre-feu. Donc le couvre-feu, il y a un petit peu de gens dans la rue, mais quand même vraiment pas beaucoup. Et puis il y a des chars, alors c'est une drôle de présence, hein, ces chars dans la rue. C'est comme une présence pacifique de militaires, quoi. Je ne sais pas si on peut rendre compte de ça, mais c'est très étrange. Mais dès le lendemain, enfin dès que le couvre-feu est levé, là, la rue commence à se remplir. Et puis très vite, vous avez des groupes qui se constituent et qui commencent à discuter. Il y a des manifestations, pas forcément des immenses manifestations qui entraînent toute l'avenue Bourguiba, mais des groupes qui portent des pancartes, par exemple les pancartes des victimes, etc. Et on sent, enfin bon, c'est palpable, enfin tout le monde le dit, c'est banal de le dire, mais vraiment c'est presque charnel, quoi. Les gens, voilà, vous regardent, rient, enfin il y a une communication comme ça, vraiment immédiate. Enfin il y a un partage du moment comme ça, mais avec les gens que vous connaissez pas, quoi. Là, évidemment, avec ceux que vous connaissez, avec qui vous bataillez plus longtemps, c'est évident. Mais comme ça dans la rue, donc ça c'est vraiment extrêmement directement sensible, quoi. Après, il y a plein de discussions plus politiques, parce que moi, les gens que je connais, ils sont engagés depuis longtemps. Alors, c'est pas des engagements forcément syndicaux, partidaires, associatifs, mais ils sont dans plusieurs histoires. Ils se posent des questions, la suite, stratégie. comment s'organiser, et c'est, ça c'est une question fondamentale en fait. Et puis comment c'est ce mouvement qui s'est levé et va pouvoir trouver les formes de son organisation. Alors moi je suis vraiment extrêmement triste que ce que j'ai visité vendredi dernier ait été démantelé par la police, 2 heures après d'ailleurs que j'y sois allé. C'était en fait un sitting vaste hein, devant la Médina, sur la place de la Casbah, devant le ministère des Finances. Et chaque ville dont on a entendu parler là, pendant les mobilisations, donc c'est Sidi Bouzid, c'est Kasserine, c'est Tala, c'est Zarzis, avait une tente qui était occupée par les gens qui avaient fait la marche du centre pour aller jusqu'à Tunis, parce que une fois que Ben Ali est parti, il faut se battre sur chaque pas supplémentaire. Hein. Il faut se battre sur chaque ministre du RCD, il faut se battre sur le ministre de l'Intérieur. Et voilà. Et donc, ils sont venus à Tunis pour dire, voilà, il faut que ça change au centre. Le cœur du système doit bouger. Hein, la tête a sauté, mais le canard court toujours, le régime est toujours en place, les directeurs d'administration, etc. Et donc, ils étaient organisés une tente par commune. Et puis, pour la gestion, j'allais dire, quotidienne, hein, tous les gens qui ont fait des occupations savent que c'est des choses importantes qu'il faut gérer. L'alimentation, comment on organise les débats, comment on nettoie le camp, comment, etc., etc. Et ils étaient arrivés, je trouve, à une forme quand même très, très fonctionnelle et très militante et très activiste, avec des temps très longs pour les discussions. Voilà. Et tout ça a été balayé. Mais en fait, c'est la façon dont c'est organisé, ça renvoie à comment c'est organisé dans certaines villes du pays. Pour avoir discuté avec un militant qui était là, de Zarzis, il m'expliquait, par exemple, que dans sa ville, le maire était parti. Il n'y a même pas eu... ils ne sont pas allés sortir de chez lui, ils ne l'ont pas menacé, il s'est barré, il a fui. Et eux, ben, les habitants, ils ont pris en charge les affaires. Donc, dans chaque quartier, ils ont fait un comité. Il y a un comité populaire pour la ville. Dans ce comité populaire, il y a plusieurs responsables de choses diverses et variées. Lui, par exemple, était responsable des relations avec les autres comités populaires. Bon, donc, on sent qu'il y a une structuration, il y a une maturation. Et puis, il y a un sixième sens chez ces personnes qui ont vécu tout le temps avec des flics aux fesses, il faut bien le dire, qui fomentaient toujours des mauvais coups. Ils ont appris quand même à lire tous les interlignes, quoi, tous les sous-titres, etc. Donc ils décryptent les populations, ce qui fait que les grosses manœuvres là, pour infiltrer le mouvement, par exemple, une blogueuse là, qui était dans cette casbah là, chaque nuit me racontait que elle avait récupéré des témoignages d'habitants qui disaient qu'on leur avait proposé de l'argent ou de l'alcool ou même du cannabis en échange d'aller crier des slogans extrêmement agressifs, il faut brûler Tunis, il faut tout détruire, voilà. Donc voilà, il y a de la corruption encore qui fonctionne comme ça pour aller discréditer, en quelque sorte criminaliser. C'est exactement ce qui se passe en Égypte. Des habitants ou des flics sont soudoyés pour aller discréditer les mouvements. Mais ça ne marche pas parce que les gens sont trop... C'est tellement évident, quoi. Tout le monde voit bien comment ils sont. Il y a des tentatives de manipulation, quoi.
Suite de notre entretien avec Hélène Flautre, députée européenne, à propos de la situation en Tunisie.
La question du gouvernement et de sa composition intéresse maintenant relativement peu, dans la mesure où beaucoup de gens ont le sentiment que c'est pas là que ça se passe, quoi. Les questions principales qui se posent, c'est pas qui est ministre ou pas ministre, c'est évidemment l'enjeu aussi d'avoir ou pas des gens du RCD. Ça, évidemment, c'est absolument central, parce que c'est pas un parti politique, en fait, le RCD. C'est un parti pieuvre, donc c'est un parti qui occupe l'administration, qui occupe les banques, qui organise la corruption avec les entreprises. Donc c'est pas un parti politique au sens où on pourrait l'entendre.
Une sorte de parti État, parti classe, en même temps.
C'est un parti pègre. Et donc, évidemment, les revendications, tous ceux que je connais, que j'ai fait venir régulièrement au Parlement européen, qui sont maintenant, qui font beaucoup d'interviews, qui sont beaucoup dans les journaux, etc., tous prennent vraiment à cœur la suppression de ce symbole caractéristique du régime benaliste autour du RCD. Mais au-delà de ça, il y a plusieurs questions qui se posent. C'est comment trouver des formes d'organisation et de représentation de ce mouvement qui a obtenu le départ de Ben Ali. Et donc, il y a des réunions avec l'UGTT, avec le barreau avec l'association des avocats, avec des associations, pour faire quelque chose qui ressemblerait à un comité de vigilance de la Révolution ou de vigilance citoyenne, enfin quelque chose comme ça. La question qui est posée, c'est celle de représenter et d'avoir une instance de débat pour voir si le processus ne trahit pas l'énergie qui a été développée là, pour balancer Ben Ali. Donc ça, c'est une première question. Les gens qui sont un peu impliqués dans les réseaux droits de l'homme, comme l'association des magistrats, comme le bâtonnier ou les avocats ou les militants des droits de l'homme directement, eux sont intéressés à avoir contrôler le beau et fort, mais en tout cas à rendre consistant quelque chose qui a été obtenu par eux d'ailleurs, qui est la formation de trois commissions. Il y en a une qui bosse sur les réformes législatives et constitutionnelles. Il y en a une autre qui travaille sur la corruption, donc décrire, mettre à jour le système de corruption et faire les recommandations utiles pour que ce soit plus possible. Et puis une troisième qui travaille sur les événements depuis le 17 décembre et alors qui essaye d'élargir son mandat justement aux événements depuis 2008, donc le bassin minier. Parce que tout ça, est effectivement, c'est l'origine, la vraie origine du mouvement, elle est à cette époque-là. Dans ces trois commissions, on peut se jouer des choses très intéressantes. Bon, je pense que potentiellement, c'est évident. Et ça pourrait donner lieu à une espèce de commission vérité et justice. Alors, il cite beaucoup l'exemple de l'Afrique du Sud, par exemple. Parce que c'est quand même un pays dans lequel plus d'un cinquième de la population a été lié directement, indirectement, au système mis en place par le RCD et le régime, quoi. Alors, évidemment, pas forcément de manière criminelle, hein, mais aussi parfois de manière criminelle, quoi. Genre, on pense déjà aux 200 000 policiers à qui on a fait faire les pires sévices dans les prisons, la torture, les défenseurs des droits de l'homme qui étaient harcelés, qui étaient vilipendés, à qui on cassait la figure dans la rue. Enfin bon, il y en a. Enfin, des histoires comme ça, il y en a quand même plein, quoi. Il faut évidemment qu'il y ait un processus pour adresser vraiment les responsabilités et mettre fin à l'impunité, et le régime ne peut pas continuer comme ça. En même temps, un cinquième de la population ne va pas aller devant le tribunal, quoi. Donc il faut trouver... Et ça, c'est vraiment un sujet de discussion extrêmement important chez les magistrats, les avocats, les défenseurs des droits de l'homme. Et donc là, je pense qu'il y a des expériences ailleurs dans le monde, il y a des processus, des démarches qui peuvent être apportées pour soutenir ce type de démarche quand même très, très importante. C'est sur la famille Ben Ali, par exemple, c'est quand même s'ils détiennent peu ou prou 40% de l'économie tunisienne. On ne peut pas dire, bon, Ben Ali est parti, c'est bien, et puis basta, quoi. Donc, il faut geler les avoirs. Non, parce qu'il y a des questions extrêmement concrètes, hein, en fait, avec le départ de cette famille qui occupait tellement de postes de responsabilité, de pouvoir, d'argent, économique, etc. Ça s'est passé avec la télé, ça se passe dans certaines entreprises. Les types qui faisaient autorité au nom de leur appartenance au système sont mis en cause. Et comme ils sont partout, il y a de la mise en question partout. Ce qui est fondamental, c'est cette volonté de s'affranchir de cette pieuvre qui organisait la peur, la méfiance, le mépris, la violence. Voilà, donc ça c'est l'énergie, j'allais dire, principale, et à partir de laquelle toutes les organisations économiques et sociales sont remises en question, puisqu'elles sont toutes dominées par des gens du système.
Hélène Flautre, députée européenne Europe Écologie Les Verts, elle était au micro de Jean, c'était en janvier dernier. Vous retrouverez l'intégralité de cette interview dans les archives de l'émission Tumulte sur le site de la radio www.radiopfm.com.